sur la bande. Are you ready?
On met notre casque, nos gants et tout notre équipement.
Ouais.
Pour la game, on est prêt à jouer chaque moment.
Chaque moment.
Pour une bonne mise au jeu, avec le ref, on est baveux. Mise en échec quand on peut, tu sens la victoire dans nos yeux. Prêt pour la victoire, ou pour soulever les gros trophées. La coupe, on veut l'avoir, notre équipe est surclassée. Autour du filet, toutes les équipes sont admises. Malgré les coups de sifflet, sur la place, tout est permis. La saison 5, c'est parti, yeah, il aura pas de chichi. Ici pour toute la vérité, je vous le promets, je vous le dis. Sur la bande, c'est la meilleure équipe. Toujours là pour les hits, notre succès a pas de limite. Zeb est back avec de nouveaux invités. Avec passion pour jaser, toujours là pour commenter. Le show va commencer, faut surtout pas le manquer. Sur la bande, faut écouter, ici c'est le podcast du hockey. Du hockey.
Yes, bonjour tout le monde et bienvenue à, je sais plus, septième profil repêchage de la Ligue nationale 2026 avec Loïc. On va scouter le jeune Caleb Malhotra. C'est un centre, le premier centre, je pense, qui va sortir au repêchage.
Yes, le fils de Manny Malhotra. Écoute, je commence tout le temps. Potentiel global, les aptitudes générales du joueur, potentiel LNH, les chances que le joueur atteigne son floor ou plus dans la Ligue nationale. Caleb Malhotra, je pense que c'est le joueur, en tout cas le centre le plus safe du repêchage. Écoutez, j'ai noté sa sécurité du prospect à 9 sur 10. Malhotra va clairement, écoutez, être au moins un centre de troisième trio. Le risque de floor, je l'ai mis à 10 sur 10. Comme je disais, il va clairement atteindre son plancher. Puis le style LNH, je l'ai mis à 9.5. Pour les raisons ceci. Sa lecture et sa vision, je l'ai mis à A. T'sais, il a une bonne vision de jeu, une bonne compréhension de ce qui s'en vient vers lui. Il lit bien les structures défensives. Ça, il est excellent là-dessus. Son tir, ça passe, je l'ai mis à B- pour son tir, et ça passe à B+. Il n'a pas un talent offensif exceptionnel, mais ses aptitudes sont quand même présentes, il faut le mentionner. Où ce que ça devient intéressant, c'est sa défense et sa combativité. C'est 2+. Malhotra, écoutez, il retient du père. C'est un joueur défensif aguerri. Je pense que si tu repêches Malhotra, c'est parce que tu as besoin d'une identité, sans dire défensive, tu as besoin de shutdown ton adversaire, tu as besoin de limiter les chances de marquer adverses. Je pense aux Canucks de Vancouver, qui d'ailleurs, c'est quasiment une bénédiction pour eux de ne pas avoir le premier choix au repêchage, parce que Gavin McKenna a mentionné qu'il ne voulait pas jouer là. Puis en plus, ça te permet aussi de faire en sorte, OK, est-ce qu'avoir un duo Pettersson-McKenna, oui, OK, ça va peut-être vendre des billets, mais est-ce que c'est optimal pour le bien-être de ton club à long terme, surtout quand tu penses que tu as un défenseur comme Yves Bouillon qui a besoin d'apprendre la structure défensive? Voilà pourquoi je m'en viens à Caleb Malhotra. C'est un joueur bâti pour ce club-là. Il t'amène, en arrivant dans le club, il t'amène de la... une identité, il t'amène de la culture, il t'amène de la stabilité, de la maturité, puis surtout, il t'amène de l'effort constant. Ça va faire en sorte que les autres joueurs vont se sentir mal de ne pas travailler. Tu sais, moi, ce que j'aime le plus de Malhotra, c'est sa hargne, puis comment il vient jouer dans les bandes, comment il n'a pas peur de salir. Tu sais, c'est un joueur salaud, c'est un joueur qui est difficile à affronter. 6 pieds 2, 182 livres, mais il joue comme 6 pieds 6, 205. Je l'adore. J'adore sa combativité. C'est son IQ, pour commencer avec ses forces, son IQ élite, comment il anticipe les couvertures, coupe efficacement les options de passe, sait ralentir ou accélérer l'attaque adverse. T'sais. Il va venir mettre la pression, puis il est capable de communiquer sur la glace à un jeune âge, comment dicter à ses joueurs où se placer, comment vraiment. C'est un player coach, puis il a 17 ans. C'est un des plus jeunes joueurs du repêchage, d'ailleurs. Il est impressionnant. Mais, tu sais, comment je peux dire? Son patinage va être à travailler. C'est le point que je m'en allais amener. Je pense que dans la Ligue nationale, puis c'est d'ailleurs peut-être que j'aimerais ça le voir. Ben, tu sais, il s'en va à Boston University d'ailleurs. Je pense que ça va être important pour lui de travailler sur. Sans dire que c'est important de travailler sur son poids, parce que c'est quand même un joueur difficile à affronter, mais ça va être important de travailler sur son accélération et sa vitesse nord-sud. Parce que dans son style de jeu, tu sais, il y a une vitesse. Comment je peux dire? Il a une bonne vitesse de croisière, mais son accélération, puis comment il se déplace, son agilité avec la rondelle va avoir besoin de travail. Malhotra ne sera jamais un centre offensif dans la Ligue nationale. T'sais. Il y a un bon plafond d'un gars de 60-70 points, mais tu sais, je pense que ça peut être un gagnant du Selkie à maintes et maintes reprises. Sans le comparer à Nzé Kopitar, parce que Nzé Kopitar, c'est une légende. Je pense qu'il peut être un mini Kopitar, puis qu'il peut, il peut faire son pain et son beurre, comme Philippe Dano l'a fait pendant maintes et maintes années.
Tantôt, tu as comparé un joueur à Nico Hischier, c'est un peu le même style?
Non, parce que je pense qu'il va être beaucoup plus dynamique défensivement que Nico Hischier, mais je pense qu'il peut être un moins bon plafond offensif qu'un Nico Hischier.
OK.
T'sais, Malo, tu sais, Hischier a quand même eu de bonnes saisons dans la Ligue nationale. Ouais. Oui, OK, c'est peut-être pas un gars de 80 points, il a peut-être été décevant pour un premier choix au total. Tu sais, Malhotra n'aura jamais ce mandat-là non plus dans la Ligue nationale. Je pense pas qu'on amène Malhotra en se disant... Tu sais, comme qu'on a amené Hischier en se disant lui, il va faire du 80 points puis amener une présence défensive. Non, non, t'amènes Malhotra pour la culture puis tout ce qui peut t'amener défensivement. Mais tu sais, tellement d'équipes qui ont besoin de cet aspect-là.
Ah oh non, c'est sûr.
Tu sais, les Flames de Calgary, une super bonne structure. Mm-hmm. Peut-être pas cette équipe-là, mais le Kraken de Seattle, qui c'est une équipe défensive qui n'a aucune structure défensive. Tu as plein de joueurs offensifs qui ne sont pas capables de... Tu sais, le Kraken de Seattle n'ont pas de problème offensif. Ils ne sont pas capables de générer de l'attaque parce qu'ils n'ont jamais possession de la rondelle. Fait qu'un gars comme Kalen Malhotra qui va venir tuer la pression défensive, je pense que ça serait bénéfique pour Seattle. Malheureusement, je pense qu'il ne sera plus là. Alors,
une équipe comme... moins que ça avance, mais...
Ouais, au moins que ça... Ouais. Puis, tu as les aspects, mais tu sais, tu as tellement de centres chez Seattle. Hey, Jake O'Brien, Shane Wright...
Non, c'est ça.
Tu sais, je veux dire, t'as pas besoin, Berkeley Catton, t'as pas besoin d'un autre.
Mais non, c'est ça.
Les Flames de Calgary, même si c'est une bonne structure, je pense qu'ils fitraient parfaitement. Mais les trois équipes que j'avais vraiment pris en note, c'est les trois équipes qui sont une après l'autre. C'est les Canucks de Vancouver, les Blackhawks de Chicago, puis les Rangers de New York. Je pense qu'ils pourraient vraiment bénéficier d'un Caleb Malhotra. Imagine un 1-2 punch Bedard Malhotra à Chicago. Merci, je pense que tu peux te permettre de Frank. Tu penses que tu peux te permettre de mettre Frank Nazar à l'aile. Tu peux vraiment travailler avec ses forces à Nazar. Il n'y a plus besoin d'avoir une responsabilité défensive et venir couvrir Bedard. Tu as vraiment de quoi de constant à bâtir. Mais si Vancouver ne repêche pas Caleb Malhotra, ça c'est parce que de un, Stenberg était disponible puis ils l'ont pris. Puis écoute, il y a une équipe qui va grandement bénéficier de son apport. C'est pas un long shot, Malhotra. Tu sais, je pense vraiment que lorsqu'il va avoir fini son parcours universitaire, il va venir dans la Ligue nationale en partant parce que ses forces défensives sont tellement présentes qu'il va pouvoir se greffer un quatrième, troisième trio puis être dominant défensivement en partant. Oui, c'est sûr qu'il va avoir des hauts et des bas, surtout avec ce, tu sais, son gabarit. Il va falloir qu'il apprenne à bien jouer son corps, à se protéger le long des bandes. Mais tu sais, je pense pas qu'il va avoir... je pense pas que ses décisions vont être... comment je peux dire... vont être catastrophiques. Puis je pense pas qu'on va se gratter la tête en disant ouais, on a-tu fait une bonne décision en l'amenant tout de suite. Par exemple, tu sais, moi je trouve que Malhotra, son jeu, mettons, pour en venir à ses faiblesses, ses choses à travailler, son jeu offensif va clairement être à travailler à Boston University. Tu sais, je pense qu'il va quand même avoir des bouchées à mettre sur son tir. Tu sais, je le sais que, comme j'ai dit, on repêche pas Malhotra pour de l'offensive, mais je pense que ça serait inacceptable qu'on repêche Malhotra, exemple, troisième, quatrième au total, puis qu'ils finissent à être le même type de joueur que son paternel, mettons. Tu vois le point que je vais amener. Tu repêches pas un gars 3-4e pour qu'il te fasse du 20-30 points non plus. Non. J'espère qu'il va être capable de travailler son patin, comment qu'il protège la rondelle en zone offensive, parce que tu sais, en zone neutre puis en zone défensive, par exemple, ça, aucun doute qu'il va être capable de s'adapter. Je trouve que son instinct pas le dire à travailler, j'aimerais ça le voir foncer au filet un peu plus souvent. Tu sais, je veux dire, avec son gabarit 6 pieds 2, je trouve que, tu sais, il joue pas en périphérie parce qu'il vient protéger ses défenseurs puis il joue creux dans sa zone. Mais tu sais, Joel Eriksson-Ek, ben, parce que j'ai donné cette comparaison-là, quand il a appris à foncer au filet, on a vu la coche que le joueur a pris puis comment ça a transformé le Wild du Minnesota parce que le Wild n'a jamais fait de transaction pour aller chercher un centre dominant. Ils ont juste développé Eriksson-Ek. Voilà pourquoi que j'amène ce point-là à Caleb Malhotra. Je pense que c'est le meilleur exemple, le type de joueur qu'il peut devenir, mais il faut être patient. Il ne faut pas transformer son identité. Le Wild a été patient avec Eriksson-Ek. On l'a laissé être un centre de troisième, quatrième paire, puis on l'a lentement, mais sûrement développé vers un centre de premier trio. Puis tu sais, c'est pas un centre qui fait du 70 points. Mais il fait du 60 points, puis il permet à Kaprizov d'avoir possession de la rondelle parce qu'il shut down, il tue les attaques adverses. Je pense que c'est la meilleure comparaison pour un Caleb Malhotra. Puis je pense que c'est pourquoi autant d'équipes, comment je peux dire? Tu sais, Malhotra, au début de l'année, même en mi-saison, il n'était pas vu comme étant un choix top 5. C'est vraiment pile de l'année. Mais tu sais, il était vu haut, mais peut-être pas peut-être pas dans les mêmes discussions qu'un Ivar Stenberg ou un Gavin McKenna. Non, Gavin McKenna est dans une classe à part. Mais tu sais, pour moi, Malhotra et Stenberg, tu sais, sont vraiment là, le même type de joueur. Il y en a un qui est à l'aile et l'autre qui est au centre. Même si Stenberg a peut-être un petit potentiel offensif plus élevé, si moi je suis une équipe de la Ligue nationale, je priorise le centre, surtout pour ce qui peut t'amener.
Il a l'air d'avoir connu des bonnes séries aussi. J'ai regardé ses stats, je ne l'ai pas vu jouer. Je sais que Brentford, ça n'a pas bien été. Malheureusement, ils ont été éliminés en demi-finale en 7.
Il me semble que Malhotra avait connu de bonnes séries. Je vais aller voir. Mais tu sais, comme je dis, il n'a pas été dominant offensivement non plus.
26 points
en 15 points en 15 matchs. Oh boy, ok, non, j'avais manqué un épisode. Tabarouette. Tu sais, Malhotra peut. Il a répondu dans le fond. Là.
D'après moi, c'est sûr que tu dis les séries, ça peut aider un joueur à monter de rang. D'après moi, 3 ou 4, ça peut être le rang qui. Comme on parlait tantôt.
13 buts, 13 passes en 15 matchs. Il fait son pain et son beurre dans les espaces restreints. Ça l'a aidé, ça, c'est sûr. Quelle domination, dans le fond! C'est sûr et certain.
Il y a du paternel dans le nez, c'est clair. Là. On peut pas nier ça. Là.
Non.
Animal O'Troy, il était tellement un joueur, en plus qu'il jouait à Vancouver, justement. C'était tellement un joueur défensif qui était responsable.
Mais tu sais, son 84 points, moi, je trouvais qu'il était fait de la façon simple. Pourquoi que je trouvais pas que son 84 points était aussi exemple, aussi surprenant que She Loves? C'est que, tu sais, She Loves... Par exemple, Malhotra est constant. Il a été constant. Ouais. Mais She Loves était tellement flashy, puis comment je peux dire? C'est la façon dont il marquait. J'étais là, OK, c'est du talent. Tandis que Malhotra, c'est de la structure. Tu vois le plan que je vais... Tu vois la différence que je vais amener? Mm-hmm. Malhotra, je le considère un peu comme un Caleb Desnoyers. Il fait son pain et son beurre dans la structure de son jeu. C'est pas un joueur d'instinct ou de talent brut. Il a du talent, là, tu sais, je veux dire. On finit pas repêcher top 5 dans un repêchage parce que t'es que structuré, mais je veux dire, ton pain et ton beurre reste quand même ta structure et ta lecture du jeu. Même chose pour Malhotra. Par exemple, la grosse différence que je vois en Malhotra, c'est que la pression, elle vient pas jouer sur ses épaules. Mais il a connu une fin de série exceptionnelle parce que la dernière fois que j'avais regardé, Malhotra avait pas le point par match en série, par exemple.
Ah, ben oui. Non, ben, il menait la série 3-1, si je me trompe pas, puis ils se sont fait éliminer en 7 par... J'ai oublié le nom, là. C'était Owen Sounds. L'attaque d'Owen Sounds, je ne me trompe pas.
Mais en tout cas, je pense que ça vient de répondre à ma question que Malhotra ne descendra pas plus tôt que 3. Je pense que. Ouais.
Avec les séries qu'il a connues, tu penses qu'il va couvrir une transaction?
Ben, on peut en parler un peu de la transaction, là, si tu veux. Là.
Ouais.
Moi, si, exemple, arrive une transaction avec les Sharks de San Jose,
ouais.
Je pense vraiment que ça va être pour une super vedette. Vraiment pour venir appuyer Mackin Celebrini. Je pense, tu sais, peut-être Austin Matthews, mais tu sais, plus que je pense à ça, puis moins que je trouve que ça fait du sens, je veux dire, tu n'as pas besoin d'amener Austin Matthews avec Mackin Celebrini. Je comprends le glamour.
Ouais.
Austin Matthews, je pense plus qu'il finirait dans une équipe comme Pittsburgh, qu'on voudrait pas recommencer au complet, mais Pittsburgh a rien à donner.
Ah non. C'est un bon point là-dessus.
Je serais pas surpris de voir une équipe comme exemple les Jets de Winnipeg vraiment all-in pour le deuxième choix repêchage. Simplement parce qu'on le sait que les Jets doivent absolument reconstruire par le repêchage. C'est pas un agent libre qui va signer à Winnipeg.
Ouais. Tu peux donner ton huitième choix plus un joueur qui est déjà établi. T'en as plusieurs à Winnipeg.
Tu sais, je serais. As-tu vu les commentaires de. Les commentaires de Connor Hlebak qui avait lâché à la fin de l'année? Alors, Hlebak, il veut un peu à Austin Matthews, il veut une destination claire, close un échange complète, meilleur gardien de la ligue. Il a 33 ans.
Ouais, non. 33 ans, désolé.
Mais.
On l'a vu cette année, Winnipeg, ça n'a pas été facile. Moi, sérieux, dans mon classement, il était plus haut, là, mais ça n'a pas.
Moi, les Jets, je les avais mis en série, mais je les avais mis dans le wild card. J'étais pas surpris, par exemple, comment que ça s'est terminé. Mm-hmm. Mais Winnipeg, moi, je pense que c'est un candidat à vraiment rebâtir.
Ouais.
par exemple, c'est quoi que tu échanges puis comment tu vas chercher. C'est surtout, tu sais, moi, je trouve que après, comment je peux dire, après la 11e sélection, après Daxon Rudolph, je trouve que ça devient quand même assez équilibré. Par exemple, tu sais, moi, je tiens à mentionner que dans mon mock draft personnel, je te l'ai déjà mentionné, Xavier Villeneuve, il est pas dans pas mal plus haut que top 15. Là. Tu sais, moi, Albert Smith, je suis pas un fan de ce défenseur-là. Moi, je prendrais personnellement Xavier Villeneuve avant Albert Smith.
OK.
C'est pour te donner une comparaison, mettons.
OK, ouais. Moi, je viens de voir son cabaret.
Les deux, c'est des défenseurs gauchers. Ouais. Moi, je switcherais complètement leur rôle. Fait que, tu sais, en voulant dire que si je mettrais, exemple, Villeneuve dans le top 10, après mon top 10, ça reste quand même assez éparpillé. Fait que rendu là, tu y vas vraiment ce que tu as de besoin.
Ouais.
Fait que, tu sais, Winnipeg pourrait vraiment bénéficier d'échanger ce choix-là et d'aller se prendre un gars que tu sais ce que tu vas avoir. Mais bref, t'es vieillissant, puis... Mais disons qu'on n'a pas fait les meilleures sélections lors des derniers repêchages. Vois-tu, moi, le meilleur joueur que je pensais qu'il y aurait dans leur alignement, c'est Brad Lambert. Puis Brad Lambert n'a pas donné ce qu'il était censé donner.
Non, c'est ça. Même Jules Pironneau, que dans le mime, justement, il pensait que Brad Lambert il allait à Montréal. Quand le joueur s'est fait repêcher, il avait surestimé ce joueur-là parce qu'il est présentement, je pense qu'il a juste flop. Là. Juste flop, il est encore jeune, là, mais.
Non, mais tu sais, moi, je pense que c'est un bon gars pour le mettre dans la catégorie bust quand on voit tout le potentiel que le joueur avait. Rappelle-toi, 2 ans avant son repêchage, il était dans les discussions pour être le premier choix au repêchage. Ouais. Tu sais, Brad Lambert a vraiment dégringolé dans les rangs des... Je nommerais pas James Higgins dans les mêmes catégories, mais moi, je me rappelle que James Higgins, c'était un consensus numéro un choix au repêchage avant qu'il connaisse des difficultés à Boston University, là, mais c'est ça, c'est... Chaque cas est différent. Pour en revenir à Winnipeg, je pense qu'il bénéficierait d'un échange pour aller chercher un deuxième choix repêchage. Mais rendu là, est-ce que tu es prêt à sacrifier un gars comme, exemple, Kyle Connor, qui pourrait être probablement la seule chose que San Jose serait intéressé à aller chercher?
Non, c'est sûr.
Je pense pas que tu as un. À part Josh Morrissey, que je ne vois vraiment pas qui échange. Mais tu sais, c'est sûr que San Jose vont demander un gars comme Josh Morrissey ou Kyle Connor. T'sais.
C'est sûr. Puis on revenait à Caleb Malhotra, fait que ça va dépendre vraiment des besoins. S'il y a une transaction, si, ça va dépendre de plein d'affaires. Puis tu sais, avec les séries qu'il a connues, ça va décider son rang aussi.
Si Winnipeg, n'importe quelle équipe qui a besoin d'une identité défensive comme les Jets, exemple, peut-être pas les Predators ont quand même Brady Martin, mais les Blues, les Devils, je les amène parce qu'on ne sait pas ce qu'il va avec Nico Hischier, ça avance à deux. McCallum Malhotra pourrait être une solide option. Sinon, moi, d'après moi, Vancouver, c'est sa destination.
Ça serait hâte de voir que le père a joué là. Puis là, le père, je pense qu'il coach HL en plus. Fait que, yes, mais un gros merci encore pour cette capsule. Capsule LNH 2026, retrouvez-nous pour les prochaines capsules.